padoudé doum dé padoudé ou padoudé doum dé ou padoudé doum dé padoudé.
Bonjour, le confinement a révélé de nouveaux modes de vie, à commencer par le télétravail. Certains prédisent que le monde ne sera plus jamais comme avant, d'autres redoutent le retour des mêmes habitudes. Le télétravail a interpellé beaucoup de Français et désormais on peut espérer qu'il se prolonge avec de nouveaux prétendants à ce télétravail. Mais d'abord, que signifie télétravailler? Est-ce un gain d'autonomie ou au contraire une flexibilité supplémentaire dans le monde cruel de l'entreprise? Flexibilité synonyme d'économie et de réduction de masse salariale. Télétravailler dans une structure appropriée, style tiers-lieu ou espace de coworking, est-ce la meilleure solution pour gagner en confort et éviter lassitude et isolement? Avec le télétravail, le risque de délocalisation n'est-il pas plus grand? Pour répondre à ces questions, pour ce deuxième podcast de Retoucher Terre, Dominique Valentin, qui est président fondateur de Relais Entreprises. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Né en 2012, hein, avec la gestion de tiers-lieux ruraux et périurbains, l'implantation de nouveaux tiers-lieux, on va parler effectivement du télétravail, de cette situation aujourd'hui qui devrait être a priori propulsée par la période de crise sanitaire. Et également Xavier Masno. Xavier, bonjour.
Bonjour Philippe.
Xavier The Village, né en 2004, le média en ligne pour repenser l'organisation du travail, thevillage.net pour l'adresse. D'ailleurs, on donnera l'adresse aussi de Relais Entreprises, je peux le dire déjà, c'est relais-entreprises.fr. Et puis Sylvie Le Calvez, directrice de publication au magazine Village. Salut Sylvie.
Bonjour Philippe.
Suite à notre premier podcast, il y a une réaction. Je voulais... C'est un peu le prolongement et peut-être l'ouverture de ce que l'on va dire aujourd'hui. C'est Thierry qui a vécu toute son enfance en banlieue parisienne. Il est installé depuis un an au Mans et il profite des jardins partagés chaque mardi. Et il nous dit « c'est une révélation pour moi, il a fallu attendre 56 ans pour découvrir cette pratique ». Est-ce que finalement, le témoignage de Thierry… Sylvie, Xavier, Dominique témoignent d'une nouvelle révélation près des Français, d'un autre mode de vie, d'un autre mode d'organisation de la vie. Xavier ou Dominique ?
Oui, mais je pense que le confinement agit comme un accélérateur. On patine avec le télétravail depuis 20 ans, on en parle depuis 20 ans. On avait un taux de progression... assez correct. On a toujours dit que la France était en retard, mais pas tant que ça, finalement. C'était un télétravail pas tout à fait assumé, pas massif en tout cas. Et là, on a un tiers de la population active qui s'est retrouvée à télétravailler de manière forcée, dans des conditions dégradées, à ne pas confondre avec le vrai télétravail, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, c'était des mesures d'éloignement sanitaire, de confinement. Et ça s'est très bien passé. Au bout d'une semaine, même les gens qui n'y connaissaient rien arrivaient à faire des apéros sur Skype ou des apéros oui. Zoom. Il y a eu une acquisition des outils assez rapide. Ce qui a moins bien suivi dans certains cas, c'était l'évolution du management, parce que les gens n'étaient pas préparés, pas formés. Voilà. Donc, on a vu à la fois... Des grosses difficultés. Et puis, malgré tout, un très très fort engouement avec une foultitude de sondages qui témoignent de la volonté d'aller plus loin du côté salarié, pas toujours du côté entreprise d'ailleurs. Ouais. Alors, on a vu aussi quelques entreprises qui en ont profité pour entamer des réflexions sur l'élargissement du télétravail, donc qui ont soit commencé des négociations avec les partenaires sociaux, soit qui avaient déjà commencé avant le confinement, comme le groupe PSA. Et donc, on peut dire que dans la population en général, le télétravail a fait son chemin et on a gagné plusieurs années en déploiement.
Ouais. Dominique Valentin, je rebondis sur ce que vient de dire Xavier. Il parle du vrai télétravail. C'est quoi le vrai télétravail ?
Alors, en fait, le vrai télétravail, c'est celui qui a été organisé. On peut effectivement considérer que ce qui s'est passé pendant la période de confinement, ça a été une réponse un peu obligée, mais dans des conditions complètement dégradées, parce que c'était plus de la garde d'enfants que véritablement du télétravail. Et on a beaucoup de collaborateurs qui se sont retrouvés un peu dans une espèce de schizophrénie, à n'être ni un bon parent parce qu'ils étaient censés travailler et donc ils devaient aussi s'occuper des devoirs. Et devoir en même temps travailler et avec cette difficulté de pouvoir se concentrer. Les études qui ont été menées pendant la période de confinement, et notamment auprès de la population parisienne, a également démontré qu'il y avait pratiquement qu'un Français sur deux qui avait véritablement un endroit dédié pour télétravailler, pour avoir un espace de travail. Et souvent, d'ailleurs, les reportages qu'on a pu voir à la télé ont montré des salariés dans la cuisine, dans le salon, pliés en deux avec un ordinateur sur les genoux, et on voit déjà d'ailleurs un certain nombre de salariés se plaindre de pathologies, voilà, mal de dos, et donc ce qui fait que cette notion de télétravail un peu improvisée va laisser, je pense, maintenant, et c'est d'ailleurs ce qu'évoquait Xavier, hein, avec beaucoup d'entreprises qui ont adopté un principe de télétravail, avec des chartes télétravail, avec une organisation télétravail. Mais je vais raconter une petite histoire quand même qui est intéressante. En 1890, il y a eu un ouvrage qui est sorti qui s'intitulait La mort du cheval, au moment où on a vu arriver les premiers véhicules à moteur. Et cet ouvrage anticipait le fait que la motorisation allait remplacer la traction équestre. Il a fallu 30 ans avant que véritablement le véhicule s'impose. Et il y a eu pendant 30 ans un conflit, un peu des suspicions, voilà, on était assez dubitatif quant à l'intérêt de ces moteurs qui faisaient du bruit, qui polluaient déjà à l'époque. Et il y a eu une grippe du cheval, en début 1900, dans les années 1910, 1915, et qui a effectivement provoqué un peu ce basculement d'une technologie à une autre. Mais on a l'impression que le Covid a eu un peu le même phénomène. 30 ans qu'on parle du télétravail, et le Covid a eu un effet accélérateur dans la pratique du télétravail.
Un article récent dans la Tribune posait la question: pourquoi le télétravail ne marchera pas dans la France post-Covid? On fait des diagnostics aujourd'hui. L'engouement, par exemple, sur les circuits courts, merci à Xavier ou Dominique. Dominique qui nous a envoyé un article récent sur, en fait, non pas une défaite des circuits courts, mais la reprise en main et l'utilisation de cet engouement autour du produit local par les grandes enseignes. Est-ce qu'on n'est pas dans le même cas? Le télétravail est finalement un soufflet qui va retomber très rapidement, Xavier et Dominique.
Non, moi, je ne crois pas du tout.
Xavier.
Faut moduler, je pense, parce qu'on assiste à des grosses inquiétudes dans le secteur immobilier. On a vu le ministre de l'Économie, le président du MEDEF, qui nous disait que le télétravail, c'était très bien, mais maintenant, il fallait revenir aux choses sérieuses. On a des tas de gens qui pensent que le télétravail est l'ennemi de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, toute l'économie est organisée autour du présentiel. On a une activité de restauration, par exemple, de restaurants d'entreprise, de restaurants dans les quartiers des entreprises. S'il y a moins de gens qui viennent au bureau, tous ces métiers, toutes ces fonctions vont souffrir. Donc, on s'est dit, pour relancer après le confinement, pour relancer l'économie, il faut arrêter avec le télétravail. Ça, je crois que d'abord, c'est une erreur, peut-être à très court terme, ça je ne conteste pas, mais à plus long terme, je pense que la demande va être tellement forte que les entreprises vont devoir apprendre à s'organiser. Deuxièmement, on s'est rendu compte que c'était possible, donc ça sera très difficile de dire aux salariés, non, écoutez, vous restez chez vous, vous ne restez plus chez vous, vous revenez tous les jours dans l'entreprise. Donc je ne crois pas du tout que ça soit un feu de paille. Ça n'était déjà pas un feu de paille avant, parce que quand on fait on regarde les sondages sur le taux de satisfaction de télétravailleurs, on dépasse à chaque fois les 90%, 95% de gens qui sont satisfaits d'être en télétravail. Et il ne faut pas oublier que légalement, le télétravail se fait sur la base du volontariat, ce qui n'était pas le cas dans le confinement, évidemment, mais dans le télétravail normal, comme on disait tout à l'heure, le télétravail se pratique sur la base du volontariat. Et les gens qui le choisissent vont être, à mon avis, beaucoup plus nombreux.
Dominique, il y a un intérêt pour l'employeur. La moyenne, on l'a vu, est de, au minimum, 50 heures de travail effectuées par les personnes qui sont en situation de télétravail. C'est partie gagnée pour l'employeur qui dit « j'ai aucune raison à réintégrer cet employé dans le sein de mon entreprise alors qu'il produit plus à l'extérieur ».
Il y a effectivement plusieurs raisons pour lesquelles les employeurs vont conserver et bien sûr encadrer le télétravail. La raison que tu viens d'évoquer, on a toutes les études qui ont démontré qu'il y avait plus de productivité. En fait, le temps gagné dans les transports est réinvesti au tiers. Un tiers pour dormir, un tiers pour sa vie perso et un tiers pour travailler. Ensuite, il y a un autre point important, c'est qu'en temps normal, sans télétravail, les bureaux ne sont occupés qu'à 50%. Ça, c'est les observatoires Actineo et autres qui le démontrent. Là, avec la mise en place du télétravail, les entreprises vont véritablement pouvoir réduire leur surface de bureau dans les métropoles, sachant que c'est souvent le deuxième poste de dépense dans une organisation derrière la masse salariale, dans les entreprises du tertiaire. Donc, elles vont y trouver un intérêt sur le plan économique. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus, non plus d'open space, mais de happen space, c'est-à-dire des lieux où il se passe des choses. Et Xavier évoquait tout à l'heure PSA. Dans l'accord PSA, il est clairement stipulé que se rendront au bureau ceux qui ont des bonnes raisons de s'y rendre. Mais si c'est pour envoyer des mails ou passer des coups de fil, c'est complètement absurde de passer du temps dans les transports. Et puis, il y a une autre notion qui est quand même non négligeable, c'est la prise de conscience des enjeux environnementaux. Les mobilités les plus rapides, mais surtout les moins polluantes, sont celles que l'on ne fait pas. Et qu'aujourd'hui, quand on voit la vague verte dans la plupart des métropoles, hein, au niveau de la tête des grandes métropoles, on sent bien que la voiture n'est plus forcément la bienvenue et que tout le monde ne pourra pas forcément se déplacer à vélo, hein, notamment ceux qui habitent sur les territoires dortoirs périurbains ou ruraux, et que le télétravail va justement être une réponse de non-mobilité à des problématiques de mobilité. Et ça s'inscrit parfaitement dans les plans de mobilité qui sont normalement obligatoires depuis 2018, hein, pour les entreprises de plus de 100 salariés.
Est-ce que le droit du travail est respecté dans ce cadre-là? Est-ce que c'est une des craintes?
Oui, bien sûr, il est respecté.
Xavier?
Oui, il est respecté. Ce qu'il y a, c'est qu'en période de confinement, on était dans un droit extraordinaire qui était prévu en cas de pandémie. Ce sont des mesures sanitaires provisoires. En espérant que la pandémie ne redémarre pas. En cas de fonctionnement normal, c'est tout à fait prévu par le Code du travail. Et ce qui est prévu par la loi et qui est passible de pénal, d'ailleurs, c'est l'obligation de repos du salarié. Et quand tu disais tout à l'heure, il y a un risque de faire trop travailler les salariés en télétravail, c'est un risque qui existe, évidemment, parce que comment, en plus, le télétravailleur a tendance à, il est content en télétravail, il est moins perturbé dans sa journée, moins distrait, il a tendance à se concentrer plus sur son boulot, il oublie un peu les horaires. Ouais. Et donc, ça s'apprend, et il faut que les managers soient attentifs à ce problème pour éviter que les journées durent 10 heures, ça c'est évident.
Avant de passer à des questions très pratiques, Sylvie, ce que tu as dans les reportages, les colonnes du magazine Village, des expériences assez nombreuses aujourd'hui orientées vers le télétravail.
Oui, ce qui vient aussi en réaction à ce que viennent de dire Dominique et Xavier, c'est qu'il parle vraiment des personnes qui sont salariées plutôt dans des grosses ou moyennes entreprises qui travaillent depuis chez eux. Et ce qu'on voit beaucoup, nous, dans les colonnes de Village Magazine, ce sont plutôt des indépendants, des toutes petites entreprises de 3-4 personnes où chacun travaille un peu depuis chez lui ou dans des tiers-lieux dont on va parler tout à l'heure, donc des espaces partagés de travail, et pas seulement, et peu finalement, très peu, de salariés qui viennent de grosses entreprises et qui se mettent en télétravail, qui sont un peu hors des écrans radars en fait, puisque ça se tient un peu dans la, dans la discrétion. Et c'est, nous, ce qui nous importe, c'est les créations souvent d'activités nouvelles. Mais c'est, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être dangereux. Déjà, quand on disait, oui, mais pour l'environnement, c'est bien de télétravailler. Ça, c'est un peu pour faire poil à gratter, mais il y a quand même des data qui sont consommées. Il y a quand même, il faut énormément d'énergie pour refroidir tout ça, et que ce n'est pas neutre du tout. C'est-à-dire qu'utiliser à tort, à travers, pour regarder des choses en streaming, faire consommer la bande passante, y compris quand on fait un podcast, ce n'est pas tout à fait anodin. Il faut aussi se questionner. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas, comme on sent la pollution des véhicules, que ça n'a pas d'impact sur l'environnement. Et puis, il y a un risque aussi de dire, ben, finalement, les personnes, elles vont aller chercher des maisons plus grandes, donc certes dans les territoires ruraux, mais aussi proche de la ville pour pouvoir faire des allers-retours avec la métropole pour aller 2 jours par semaine, 3 jours par semaine dans son entreprise. Et ça veut dire continuer de périurbaniser avec de plus en plus de surface pour avoir de la place pour mettre un bureau, plus quand même de temps en temps aller peut-être dans un tiers-lieu et quand même continuer de faire des allers-retours avec son employeur. Donc le risque d'étalement et d'avoir besoin de vider des centres-bourgs aussi ou des centres-villes parce que finalement on n'a pas de jardin puis on n'a pas un espace assez grand pour mettre son bureau, il existe. C'est plutôt les points d'attention. Je voulais... ouais.
Pour confirmer ce que tu viens de dire, Sylvie, des chiffres qui datent de 2018 sur ce panel de personnes qui se déclarent télétravailleurs ou télétravailleuses, 49% des télétravailleurs sont employés par de grandes entreprises. Effectivement, ça implique de poser la question à toute ce nuage, cette nuée de travailleurs indépendants, de TPE, l'usage du télétravail aujourd'hui. Pendant la crise, c'est très amusant parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux une photo d'un maçon qui était à sa table de cuisine avec...
la bétonneuse dans le salon.
Exactement, et qui dit « Ah ouais, le télétravail, c'est génial, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça ?» Et effectivement, ça réduit d'un seul coup la possibilité d'utiliser ce travail à distance. Xavier, un mot peut-être à ce sujet, parce que finalement, est-ce qu'on ne rejoint pas une forme d'élitisme professionnel?
Non, parce que le télétravail, c'est juste une organisation du travail. C'est pas une récompense pour les bons élèves de l'entreprise. C'est ceux qui ont un travail dématérialisé, et ont particulièrement toutes les fonctions support. Pourquoi on les priverait de cette possibilité d'organisation? Alors évidemment, ça ne fonctionne pas quand on a un métier... comme le maçon, par exemple, qui est lié à la matière, quand on a un métier posté, quand on a un métier de contact, comme tous les soignants, et on l'a bien vu pendant la pandémie, tous les soignants qui étaient exposés plus que les autres au virus, on pouvait se dire que c'était injuste, mais je ne pense pas du tout que ça soit une injustice. C'est juste, c'est pas une religion, c'est un mode d'organisation du travail, donc il ne faut pas surinvestir psychologiquement dans le télétravail. C'est un moyen d'organisation. Tant mieux pour ceux qui peuvent l'exercer. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui peuvent l'exercer, mais qui ne souhaitent pas l'exercer. Et la loi est bien faite. Hein. Je le disais tout à l'heure, c'est réservé aux volontaires. Moi, je connais des gens qui ne veulent pas que le travail entre chez eux. C'est fait légitime, c'est leur droit.
Après, il y a la différence entre la vie privée et la vie professionnelle. Vous parliez de... J'aimais bien cette idée de open space en remplacement de l'open space. Vous, promoteur des tiers-lieux, est-ce que le tiers-lieu est le lieu le plus approprié, l'espace le plus approprié pour devenir télétravailleur?
En fait, et pour juste refaire une petite parenthèse par rapport au sujet juste avant, par rapport à ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas, il n'y a pas de position dogmatique à avoir d'opposer ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. En fait, pourquoi je dis ça? C'est que si tous ceux qui pouvaient télétravailler le faisaient, télétravaillaient, ça rendrait beaucoup plus digeste la mobilité pour ceux qui doivent se déplacer dans les villes. Le maçon aujourd'hui qui perd une heure dans les embouteillages pour aller sur son chantier, lui, il peste parce qu'il ne peut pas télétravailler, mais parce que les autres qui pouvaient télétravailler ne le font pas, ben ça crée des saturations de rocade. De même que l'infirmière qui doit se rendre en métro à l'autre bout de Paris et qui doit être comprimée dans le métro aux heures de pointe, s'il y avait un peu moins de monde, parce que ceux qui peuvent télétravailler télétravaillent, elle supporterait davantage les transports. Et si on réduisait les surfaces de bureaux dans les métropoles pour créer un peu plus de logements, et peut-être qu'elle-même, elle pourrait se loger là où elle travaille. Mmh. Voilà, je ferme la parenthèse. Bien sûr que le fait de pouvoir dissocier vie privée, vie professionnelle, et tout en recréant du lien social, c'est une demande qui peut s'exprimer de la part de certains télétravailleurs. Je dis pourquoi certains télétravailleurs, c'est que lorsque vous télétravaillez un jour par semaine et que vous avez une grande maison sans enfants en bas âge, sans chien qui aboie toutes les 5 minutes, la maison correspond très très bien à un espace de travail agréable dans lequel on peut être efficace. Quand vous commencez à faire 3 jours ou 4 jours de télétravail et que vous ne voyez personne hormis votre chat ou votre chien et quand bien même votre maison est spacieuse, c'est là le troisième lieu, le tiers lieu, qui n'est ni la maison ni le bureau, l'espace coworking, l'espace de travail partagé qu'on partagera dans une même semaine ou en même temps avec peut-être d'autres coworkers, quoi qu'il en soit, va permettre de créer du lien. Et nous, on a l'habitude de dire que ces espaces sont les lavoirs numériques des temps modernes, c'est-à-dire ces lieux où, à l'époque, on allait exercer une activité à valeur ajoutée, c'est-à-dire laver son linge, et en même temps, on crée du lien social, c'était aussi le Facebook de l'époque. Ouais. Mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait des solutions qui puissent coller à toutes les typologies d'usagers. Et on a souvent, nous, l'habitude de faire un parallèle avec le secteur de l'hôtellerie. En fait, quand on parle tiers-lieu, coworking et autres, ou bureau en centre-ville, qu'importe, on voit bien qu'à chaque fois, il y a une chaise, une table, un fauteuil et une connexion Internet. Mais dans l'hôtellerie, c'est pareil. Il y a un lit avec une salle de bain. Mais on voit bien qu'il va y avoir plus ou moins de services, plus ou moins d'animation et que ça colle à différents publics qui vont rechercher plus ou moins ce standing ou plus ou moins cette dynamique.
Vous anticipez, Dominique, sur une question d'une fidèle au bout du deuxième numéro. J'aime bien te parler de fidèle, Jocelyne, qui dit « Est-ce que télétravail et campagne sont vraiment compatibles ?» Elle s'explique en disant « En ville, c'est très bien. Vous télétravaillez dans un espace soit personnel, soit collectif, style espace de coworking, mais vous sortez de là, vous avez votre relation, vous êtes seul à la campagne, vous êtes devant votre écran, vous sortez de là, vous êtes seul face à vous-même. Est-ce que vraiment télétravail et campagne peuvent unir leurs liens de façon indéfectible ou il y a vraiment un hiatus entre les deux ?
En fait, plus on va s'éloigner d'une ville, plus le nombre de jours de télétravail va augmenter parce que l'impact sur la mobilité sera important. Quand on est en territoire ruraux, ultra-ruraux, on aura même de nombreux télétravailleurs à 100%, donc des salariés détachés à 100%, des boîtes étrangères ou même des boîtes françaises qui ont adopté le télétravail à 100% et notamment pour des métiers en tension. Un codeur informatique, qui sont des métiers très recherchés, peut imposer à son employeur de travailler là où il le souhaite. Et là, effectivement, pour ces personnes que j'évoquais tout à l'heure, qui ne voient personne, pour ces actifs qui ne voient personne de la journée et de la semaine, puisqu'ils ne vont pas revoir les collègues le lendemain ou le surlendemain, plus que jamais, ces actifs-là vont avoir besoin d'un lieu de sociabilisation, qui sera un peu moins vrai pour un actif qui est en milieu de plus grande densité. Et l'importance, effectivement, de la localisation de l'espace de travail, il faut effectivement en parler parce que plus le lieu sera dans un espace d'animation proche d'une boulangerie, proche de la place du village, et plus ça va permettre de créer aussi du lien avec les autres habitants du territoire.
Alors, on vous écoute, il y a des personnes qui vous écoutent, formidable, c'est très bien. Effectivement, c'est une solution d'avenir. Comment on se forme au télétravail, Xavier, Dominique, Xavier, vous avez une solution ?
Oui.
On va sur The Village, mais est-ce que ça suffit ?
Oui, alors on a organisé aussi des formations. Il y a 3 ans et demi, on a lancé un MOOC qui rassemblait 9000 personnes, une formation ouverte en ligne. Sur le marché, il y a des tas d'opérateurs qui font des formations, à la fois pour les cadres et à la fois pour les télétravailleurs. Donc ça, aujourd'hui, c'est plutôt un problème. Le problème, il vient plutôt en amont de la demande de formation, il vient de la petite révolution à réaliser chez les dirigeants et chez les managers. Longtemps, les managers ont été accusés de freiner le télétravail parce qu'ils avaient peur pour leur poste. En réalité, on s'aperçoit que les managers, ils s'adaptent très très bien au télétravail, en général, il y a toujours des cas particuliers, ils s'adaptent. Ce n'est pas l'ennemi, le manager, il va manager comme on lui demande de manager. Donc, si la culture d'entreprise, si les moyens mis au service du télétravail sont suffisants, ça va relativement bien se passer.
Oui.
Et c'est ça qu'on n'a pas vu pendant le confinement, parce que la mutation a été très brutale. Dans la semaine, il a fallu s'organiser. Et y a beaucoup d'entreprises qui ne savaient pas s'y prendre. Et donc, la seule relation qui existait entre le manager et le salarié à distance, c'était une discussion ou des échanges sur le travail.
Oui.
On ne les avait pas formés en leur disant qu'il fallait peut-être faire preuve d'empathie, de patience, peut-être arrêter de casser les pieds des salariés avec des indicateurs de performance, des choses comme ça. Et c'est pour ça que, et tout à l'heure Dominique le disait aussi, hein, un télétravail dans des bonnes conditions, ça se prépare et ça s'encadre. Il faut mieux éviter d'improviser.
Et question récurrente aussi, c'est toujours la même chose, c'est le palmarès des régions. Alors, pendant le confinement, Dominique, vous avez créé Vivre au Vert, vous avez réalisé un quadrillage des territoires avec des territoires qui sont effectivement, qui affichent la couleur verte parce qu'ils ont tous les indicateurs pour permettre aux télétravailleurs de s'épanouir.
Alors, c'est pas tout aussi. Merci d'évoquer Vivre au Vert, mais en fait, Vivre au Vert est une plateforme qui permet à tous les territoires d'apparaître en toute objectivité selon des critères propres à chaque candidat à une installation sur un territoire qui lui correspond. Je m'explique. On a pu, et pourquoi cette société et cette aventure est née pendant la période de confinement, c'est deux choses. Un, on a tous observé l'exode des Parisiens, notamment à la veille du confinement, qui sont allés se réfugier au Vert pour justement mieux supporter cette promiscuité des appartements et le fait de ne pas pouvoir bouger et de ne pas profiter finalement de ce que propose une ville, à savoir l'accès aux musées, aux restaurants et autres lieux de loisirs, pour avoir plus d'espace vert, pour pouvoir sortir dans son jardin. Et quand on n'a pas de balcon, c'est très important. Et on a vu aussi un phénomène, c'est que des entreprises, après la période de confinement, nous ont appelés en disant ben, « on a un souci, nos collaborateurs ne veulent plus revenir au bureau parce qu'ils ont pu se rendre compte que ça marchait très très bien à distance et qu'ils avaient peur de prendre les transports en commun et surtout, ils avaient perdu l'habitude de perdre du temps dans les transports. » Et du coup, et du fait du télétravail, on a aujourd'hui un certain nombre d'actifs qui se disent « mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'habiter là où j'habite si je n'ai plus de relation directe entre lieu de vie et lieu de travail ?» Et donc, beaucoup d'actifs qui avaient la chance d'avoir une résidence secondaire en ont fait leur résidence principale et d'autres sont en train de réfléchir en se disant « on ne va pas avoir une résidence secondaire, on va carrément déménager et s'il faut se lever une fois par semaine à 4h du matin ou à 5h du matin pour prendre le premier train pour arriver 2h, 3h, 4h après à Paris pour aller voir les collègues parce qu'on ne le fera qu'une fois par semaine, c'est beaucoup plus digeste que finalement faire une heure et demie tous les jours de RER pour aller sur Paris. Et donc, Vivre au Vert, selon des critères tels que l'éloignement à Paris, la proximité d'un lycée, le prix moyen du mètre carré, parce que d'ailleurs, c'est Arthur Lloyd qui a sorti une étude un peu comparative des prix du mètre carré entre Paris et un certain nombre de villes, de régions en France, y compris sur l'immobilier de travail. On est sur des ratios complètement délirants et on voit aujourd'hui que pour un 30 mètres carrés à Paris, on peut avoir une très très belle maison dans les Ardennes alors qu'on n'est qu'à 1h30 de Paris. Donc voilà, Vivre au Vert va permettre de faire apparaître des territoires en toute objectivité et on a intégré dans les critères de sélection des territoires la proximité d'un tiers-lieu d'activité, d'un espace coworking pour ceux justement qui veulent à la fois vivre à la campagne sans pour autant se retrouver isolés à la campagne.
Et messieurs, vous avez un exemple de télétravail assumé depuis combien ? 20 ans ? 30 ans ? 40 ans ? Non, j'exagère, Sylvie.
Bientôt 30 ans, incroyable. Et on a commencé le télétravail avec une partie de l'équipe des salariés de Village Magazine en 97. Je pensais à ça en préparant cette émission. Donc effectivement, ça fait quand même un moment. On était en télétravail dans certains salariés, que ceux qui le souhaitaient, bien sûr, qui l'ont demandé. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'est-à-dire qu'on envoyait des disquettes et on travaillait depuis son village et on allait à la poste du village poster sa disquette, etc. Et donc, effectivement, et on était regardés un peu comme des ovnis et sollicités par d'autres types de presse, des grands groupes qui nous disaient on a des demandes pour être en télétravail, est-ce que ça marche ? Alors, aujourd'hui, avec Internet, c'est évident que tout a changé et que c'est beaucoup plus facile. Mais déjà, à l'époque, on pouvait le faire. Néanmoins, on voyait vite aussi qu'il y avait des conditions à réunir pour que ça marche, et notamment de venir de temps en temps au siège, entre guillemets, ou en tout cas un endroit, même au carrefour entre les différentes personnes où on pouvait se retrouver physiquement en chair et en os pour ne pas perdre la dynamique, pour ne pas perdre la créativité, pour ne pas perdre le sens de ce qu'on produisait, parce que ça a été un écueil dans les débuts. Et puis ça obligeait à des temps de réunion, entre guillemets, de mise au point très fréquentes, plus fréquentes, très fixes, très organisées, parce que si on laissait passer 15 jours, 3 semaines, des choses qui se disaient dans les couloirs, comme ça, d'un bureau à l'autre, et bien, elles étaient perdues. Et donc, ça nous a obligés à plus de rendre les choses un peu carrées et avec des rendez-vous fixes, etc., pour que ça marche bien. C'était des petits points que je voulais souligner pour que ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun est là où il a envie de vivre pour travailler, y compris, bien sûr, tous nos pigistes en région, sauf ceux qui sont au siège, entre guillemets, dans un village de 200 habitants, qui ne veulent pas, effectivement, travailler depuis chez eux, ne le souhaitent pas parce que la maison n'est pas adaptée, parce qu'effectivement, il y a des enfants à la maison, etc.
C'était pas ta chronique de conclusion.
Non. C'est un témoignage.
Alors, merci pour le témoignage. Il est peut-être temps d'écouter ta chronique.
Alors, un petit tour comme ça d'horizon, je ne sais pas si vous partagerez, mais bien sûr, il est difficile d'être boulanger, on parlait du maçon tout à l'heure, ou infirmier en télétravail, mais les activités qui peuvent s'effectuer depuis n'importe quel point du territoire sont pléthoriques. Alors, journalisme, bien sûr, conseil, formation, informatique, graphisme, communication, secrétariat, service culturel, comptabilité, immobilier, architecture, et j'en passe. La plupart de ceux qui travaillent depuis chez eux sont des indépendants, mais pas tous. Et on a rappelé le chiffre tout à l'heure. Depuis la crise du coronavirus, davantage de salariés de grandes, de moyennes ou de petites entreprises franchissent le pas et combinent des journées dans les locaux de l'entreprise et des journées à leur domicile. Mais travailler avec son chat, comme on le disait tout à l'heure, ou surtout pour seule compagnie son ordinateur, le regarder dans les yeux 8 heures par jour, même en faisant une pause lessive, c'est quand même un peu triste. On s'étiole, voire on s'éteint, car manquent ces moments de partage d'idées ou de points de vue autour d'un café qui nourrissent la créativité. Alors les lieux de co-travail ou de travail partagé, je préfère les appeler ainsi que co-working, parce que ça m'est reproché par les lecteurs de village, se développent un peu partout en France, en ville comme dans les villages, à l'initiative de communautés de télétravailleurs, souvent, ou de collectivités locales. Et il y a encore des besoins, car faire 30 km pour aller télétravailler, ben, c'est quand même pas très intéressant. Et pourtant, est-ce qu'il y a aussi aujourd'hui assez de télétravailleurs pour créer des espaces tous les 5 km ? C'est pas sûr. Des départements comme celui du Gers, avec son dispositif Solo, accompagnent un réseau de 300 indépendants travaillant avec un ordinateur. Ils organisent des ateliers thématiques ou des formations, aident à rompre l'isolement des professionnels. 5 espaces de co-travail existent dans le département, sans compter les lieux qui combinent les activités liées au numérique avec d'autres. Et ça, on en a peu parlé, de l'artisanat ou de l'agriculture. En gros, je viens télétravailler, j'en profite pour suivre une formation en couture et je repars avec mon panier de légumes. Alors pour illustrer, je pourrais vous raconter l'histoire de la Smala dans les Landes, où se mêlent le café associatif, l'espace de co-travail pour les consultants ou les graphistes, et des artisans comme un luthier ou un fabricant de planches de surf. Et si avec ces tiers-lieux, on était en train de refabriquer finalement des places de village ? Les expériences se multiplient. Dans le sud-est, en Ardèche, un peu au nord d'Aubenas, nous pouvons retrouver les trentenaires du Vaisseau-Mer. C'est le nom de ce tiers-lieu installé dans le village de Vaisseau, d'où le jeu de mots, hein, astucieux, et qui ont réhabilité une ancienne maison de retraite fermée depuis plusieurs années et qui était elle-même installée dans un ancien couvent du XIe siècle. Sur 1 400 m², on trouve à la fois de l'habitat partagé, 5 logements, un espace pour accueillir les entrepreneurs locaux, des associations, notamment dans le secteur créatif et culturel, cirque, danse, composition musicale. Bref, aujourd'hui, 14 structures sont installées sur place et une trentaine de personnes forment le noyau dur de l'association et qui compte 500 adhérents. Que l'on soit à la Smala dans les Landes ou au Vaisseau-Mer en Ardèche, la préoccupation des fondateurs est de répondre aux besoins locaux, que ce ne soit pas une bulle de néo-ruraux devant leurs ordinateurs, mais que des personnes de tous âges, de toutes catégories sociales, participent à l'aventure. Ce qui importe, c'est de partager, de transmettre des savoirs et des savoir-faire, de tisser des liens entre habitants afin de fabriquer des lendemains qui chantent. Ici, demain, c'était vous.
Merci Sylvie. Merci à Xavier Masneau, The Village, né en 2004, le média en ligne pour Repenser l'organisation du travail. Le site, c'est thevillage.net. Ça va s'afficher sur le podcast que vous suivez. Merci également à Dominique Valentin, Relais, Trade Union, Entreprise au pluriel.fr. Et il y a aussi le blog de Vivre au Vert dont on a parlé avec ce quadrillage des territoires. Il y a toujours une grosse pédagogie à faire et j'espère qu'on y a participé à notre façon. Le Village Magazine, vous avez le lien qui va apparaître aussi. Et dans un mois, on se retrouve autour de la culture. Alors, ce n'est pas l'offre culturelle. J'aime pas cette idée d'offre culturelle à la campagne. Ça veut dire qu'elle vient de l'extérieur. C'est la possibilité d'inventer. Le mot présidentiel, c'est de réinventer. Ça les ennuie un tout petit peu, les gens de la culture, ils ne passent leur temps qu'à inventer, donc réinventer la culture. Mais de quelle façon, dans ce contexte actuel, réinventer ou inventer la culture, en particulier en milieu rural? Donc on se retrouve dans un mois. L'adresse pour vos remarques et initiatives ou propositions ou questions, retoucherterremaintenant@gmail.com. Merci Xavier, merci Dominique, merci Sylvie.
Merci Philippe.
Au revoir.
Bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir.